Radio Prague, les informations.
Václav Klaus revient sur l'incident australien et le détecteur de métaux. Bruxelles s'intéresse à l'abattage des arbres contaminés dans la Chumava et l'alcool a tué 29 personnes sur les routes depuis le début de l'année. Le président de la République, qui a pris l'habitude de tenir un carnet de ses voyages dans le quotidien Pravo, est revenu dans l'édition de jeudi sur ce que certains médias australiens et tchèques ont décrit comme son refus de passer par le détecteur de métaux du Parlement de Canberra en Australie. Václav Klaus explique que c'est parce qu'une centaine d'écoliers attendaient également de franchir les barrières de sécurité qu'il a préféré ne pas faire la queue et a indiqué à la productrice de l'émission de télévision à laquelle il était invité que l'entretien pourrait se faire à son hôtel. Revenant sur les commentaires que l'incident a suscité dans la presse, il estime que la médiocratie a de nouveau attaqué. Fin de citation. Václav Klaus est en Australie pour 2 semaines à titre privé et participe notamment à des conférences sur le climat. La Commission européenne s'intéresserait de près à la procédure d'abattage des arbres du massif de la Chumava, contaminés par un insecte xylophage appelé scolite. Une information confirmée par le ministère tchèque des Affaires étrangères. D'après le serveur actualnier.cz, la Commission européenne a demandé en juin à la diplomatie tchèque de lui expliquer la situation en cours dans les zones protégées du parc de la Chumava. Ensuite, la Commission décidera si elle entame ou non une procédure pouvant mener à une sanction ou une amende. Le parc naturel de la Chumava fait partie du système européen de territoires protégés Natura 2000, une des priorités de Bruxelles. Et à noter que ce jeudi, les forces de l'ordre sont à nouveau intervenues contre une dizaine d'activistes écologistes qui essayaient d'empêcher l'abattage d'arbres contaminés. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2011, 29 personnes sont décédées sur les routes tchèques en raison de l'alcool, un chiffre qui représente 9% de l'ensemble des accidents de la route en République tchèque. D'après le chef de la police de la circulation l'an dernier, les autorités ont compté 17 victimes de plus pour la même période. Le nombre d'accidents de la route dus à la consommation d'alcool reste en augmentation. L'adaptation cinématographique de la BD tchèque Alois Nebel sera présentée à la Mostra de Venise, hors compétition. La bande dessinée Alois Nebel a été créée par 2 auteurs, Jaroslav Rudisch et Jaromir 99. L'adaptation pour grand écran est le résultat du travail du réalisateur Tomasz Luniak, qui signe là son premier opus. Il s'agira d'un film mélangeant animation et scène réelle. Le film sera donc présenté au public en première internationale à la 68e Mostra de Venise, avant sa sortie en salle en République tchèque le 29 septembre. Et puis, à noter que du 29 au 30 juillet se déroulent les journées folkloriques de Prague, qui proposent 2 jours de spectacles de rue avec des groupes venus de divers pays, des ensembles folkloriques venus de France, du Canada, d'Autriche, d'Angleterre, de Turquie, mais aussi de Norvège, du Portugal, de Russie, de Suisse, de Grèce et de Lituanie se produiront à cette occasion. Les différentes scènes à ciel ouvert sont situées sur la place Venceslas, la place de la Vieille Ville ou encore la place de la République à Prague. Un défilé à travers la ville sera organisé samedi après-midi. On finit par un mot de météo, vendredi jour de fête des Magdalena. Le temps en République tchèque sera plutôt clair, avec de possibles averses par endroit. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés. Un léger rafraîchissement et des averses plus fréquentes sont à prévoir pour le week-end. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le programme en français de Radio Prague et vous avez bien raison. Aujourd'hui, dans notre programme, nous parlerons d'abord de la protestation des pilotes de la compagnie aérienne CSA qui sont contre les licenciements qui ont commencé déjà dans la société. Et puis, nous irons faire un tour du côté d'une exposition consacrée au petit-fils de Jan Amos Komenský, plus connu en France sous le nom de Comenius, son petit-fils Daniel Ernst Jablonský est peu connu en République tchèque et une exposition lui est donc consacrée. Dans la rubrique touristique, dans la deuxième partie du programme, nous irons faire un tour du côté de la charmante ville de Rumburk. « CSA ou Czech Airlines, la compagnie aérienne tchèque, actuellement en processus de restructuration, prévoit de licencier jusqu'à 20% de ses pilotes. Les premiers licenciements ont été effectués dans la journée de mercredi. Les représentants de l'association des pilotes de transport tchèque vont protester contre cette décision à partir de lundi prochain. La forme des protestations sera un peu particulière, une sorte de grève du zèle. Les pilotes vont suivre le code de travail point par point, très minutieusement, ce qui retarderait les vols et aurait donc des répercussions financières sur la compagnie. Plus d'informations, c'est avec Hanka Niemeczkova.
D'après l'association CZ Alpa, qui regroupe les pilotes de CSA, la compagnie compte licencier 50 à 70 pilotes sur un total de 350. Le reste du personnel sera également touché par le licenciement. L'association proteste contre les plaintes de licenciement qui ne seraient pas conformes au projet de restructuration approuvé par le gouvernement tchèque. CSA et Miroslav Kalousek, le ministre des Finances et donc le représentant de l'actionnaire majoritaire, affirme que l'association avait accepté le projet de restructuration auparavant et qu'ils sont donc étonnés par l'opposition actuelle. Philippe Gaspar, pilote de CSA et le président de l'association CZ Alpa.
Pendant les 6 mois derniers, la situation s'est aggravée. La compagnie ne remplit pas ses obligations envers ses employés et ne respecte pas les résultats de nos pourparlers. Le code du travail n'est pas respecté et à plusieurs égards. Enfin, la décision de licencier en dehors du plan de restructuration, c'est trop.
L'association des pilotes reproche à la direction de la compagnie son manque de communication et un comportement économique irrationnel. Concrètement, la décision d'abandonner des lignes lucratives et de réduire les effectifs, même si la demande du transport aérien a augmenté de 10% depuis le début de l'année. Mercredi, la direction de CSA a annoncé les détails du plan social. Hanna Hiskova est la porte-parole de la compagnie.
CSA réfute résolument les accusations formulées par l'association des pilotes. Elles ne sont qu'un prétexte pour provoquer un conflit. Ce sont les intérêts personnels de certains individus qui sont à l'origine de cette situation. Il n'y a aucune raison valable pour justifier objectivement les protestations. Au contraire, la restructuration de la compagnie continue suivant le plan adopté. CSA a inauguré des nouvelles lignes lucratives vers l'Ukraine. Nous avons basé un avion à l'aéroport de Bratislava qui dessert 6 nouvelles lignes. Nous renforçons notre position sur plusieurs champs d'activité.
Les protestations auront aussi comme objectif d'attirer l'attention sur les conditions de travail des pilotes, qui doivent aujourd'hui préparer le vol dans leur temps libre, car le code du travail ne peut pas, selon Philippe Gaspard, être suivi à la lettre dans le contexte actuel.
Les pilotes vont préparer les vols en mode go slow. Cela veut dire que nous allons strictement suivre les textes à la lettre, ce qu'on fait d'habitude, bien sûr, mais nous allons les suivre dans notre temps de travail. Nous allons nous servir de tous nos droits inclus dans le code du travail. Jusqu'ici, les pilotes arrivent régulièrement 20 ou 30 minutes avant le début de leur service pour étudier tous les matériaux et pour préparer l'avion pour le vol.
D'après sa porte-parole, la compagnie a déjà prévu des mesures pour empêcher les plaintes des pilotes. Les pilotes ont été priés de venir 1h30 au lieu d'1h avant le départ de l'avion pour éviter les retards des vols. CSA espère toujours parvenir à un accord avec les pilotes qui n'ont pas exclu non plus cette possibilité.
Jan Amos Komenský, ou Comenius en français, c'est l'une des grandes figures de la pensée européenne du XVIIe siècle, un homme qui a jeté les bases de la pédagogie moderne. C'est à la vie et à l'œuvre de son petit-fils, Daniel Ernst Jablonski, qu'est consacrée une exposition que le public peut voir ces jours-ci au Musée national pédagogique de Prague. Le descendant du grand pédagogue, qui a vécu surtout en Allemagne, est aujourd'hui presque oublié dans la patrie de son illustre grand-père, et les auteurs de l'exposition se proposent donc d'attirer l'attention du public tchèque sur cet homme qui a devancé son époque. Václav Richter.
Daniel Ernst Jablonski, né en 1660 et mort en 1741, était non seulement descendant de Jan Amos Komenský, mais aussi l'homme qui a renoué dans une certaine mesure avec l'œuvre de ce penseur. Jan Šimek du Musée pédagogique national de Prague explique les liens de parenté qui unissaient les deux hommes.
Jan Amos Komenský měl dceru Alžbětu, která si vzala jeho...
La fille de Jan Amos Komenský, Alžběta, a épousé le plus proche collaborateur de son père, Petr Figulus. Daniel Ernst Jablonský a été le deuxième fils né de cette union.
Le fils de Figulus n'était cependant qu'un pseudonyme utilisé par le collaborateur de Comenius après avoir été contraint à l'émigration pour des raisons religieuses.
Ses fils, nés pendant l'exil qui n'étaient plus obligés de se cacher, ont décidé d'avouer publiquement les origines de leur père, provenant de la commune de Jablona, et ont adopté le nom de Jablonski. Jan Šimek évoque les principales étapes de la vie du deuxième fils de Petr Figulus.
Daniel Arnoš Jablonský vystudoval na protestantské univerzitě ve Frankfurtu.
Daniel Ernst Jablonský a fait ses études à l'université protestante de Francfort sur Oder et il a fait aussi un séjour d'études à Oxford où il a noué beaucoup de contacts précieux avec des ecclésiastiques anglicans qui devaient occuper plus tard des postes importants dans leur église. Ensuite, il a été chargé de poste de prédicant de la cour, tout d'abord à Königsberg, et au début des années 1730, il est devenu prédicant de la cour de l'électeur à Berlin. Il devait occuper ce poste jusqu'à sa mort en 1741.
L'éloquence de Daniel Ernst Jablonski est très appréciée et le roi Frédéric Guillaume le donne en exemple aux autres prédicants. Son prestige est tel qu'il devient confident des rois de Prusse et exerce une influence considérable sur ses souverains. C'est pour cette raison qu'il devient aussi représentant de l'unité des frères tchèques. Les membres de cette église protestante qui vivent en immigration en Pologne et doivent faire face à la pression croissante de l'église catholique confient à Daniel Ernst Jablonski le siège d'évêque. C'est par l'intermédiaire et avec l'aide de Jablonski qu'ils cherchent à protéger leurs droits religieux. Selon Jan Šimek, Jablonski a renoué avec l'œuvre de son grand-père en cherchant à rapprocher les chrétiens protestants de divers pays.
Il a été précurseur de l'œcuménisme, qui est un mouvement qui ne s'est développé qu'à partir du XIXe siècle. Il a construit des ponts qui cherchaient à éliminer les différences entre les différentes confessions. Il ne s'agissait cependant que des confessions protestantes. Il ne cherchait pas un dialogue avec les catholiques, mais un langage commun avec les luthériens, les anglicans et d'autres confessions non catholiques.
Les activités théologiques ne sont cependant qu'une partie de l'œuvre de ce penseur. Il se classe parmi les meilleurs orientalistes hébraïstes de son temps et publie avec ses collaborateurs, entre autres, la version hébraïque de la Bible. En commun avec le grand savant Gottfried Wilhelm Leibniz, il fonde vers la fin du XVIIe siècle la Société des sciences de Berlin, qui se transformera plus tard en Académie royale des sciences et des lettres. Leibniz est le premier président de cette institution et Jablonski est son adjoint. Après le départ de Leibniz, il devient lui-même président de la société. L'exposition consacrée à cet important savant et théologien du XVIIe siècle sera ouverte jusqu'au 20 novembre prochain.
C'est avec cette exposition que se termine la première partie du programme en français de Radio Prague. Surtout, restez à l'écoute car c'est l'heure d'une de vos rubriques préférées, la rubrique touristique. Et dans ce nouveau guide touristique cette semaine, Jarka Gisubelova vous invite à Rumburg, une ville qui compte environ 11 000 habitants et qui est située à l'extrémité nord de la Bohême, dans la région de Schlunknov. Dans les années 30, Rumburg était surnommée la Petite Paris, en raison de nombreux cafés, hôtels et des pâtisseries qui s'y trouvaient en compensation du caractère industriel de la ville. Ce qui attire aujourd'hui les touristes à Rumburg, c'est Notre-Dame de Lorette, la réplique du sanctuaire qui se trouve dans la commune italienne de Loreto.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Pour les touristes venant d'Allemagne, Rumburg est accessible par deux passages frontières, Seifensdorf et Neugersdorf. La ville fait partie intégrante de l'eurorégion Spree-Mandau, regroupant plusieurs communes tchèques et saxonnes. Elle est connue pour être le lieu de l'unique révolte de soldats tchèques de l'armée austro-hongroise pendant la Grande Guerre, comme le rappelle un monument érigé à leur mémoire. Elle est réputée pour sa réserve protégée des maisons à colombages, ainsi que pour ses résidences de riches industriels et commerçants qui s'y sont installés au XVIIIe siècle, dont l'Anglais Robert Alasson, fondateur d'une manufacture du textile. Moins connu est le fait que Franz Kafka a plusieurs fois séjourné à Rumburg entre les années 1915 et 1918 en tant qu'employé d'une compagnie d'assurance et aussi en tant qu'hôte du sanatorium local. La première question que le touriste qui vient à Rumburg se pose est de savoir pourquoi une Santa Casa à Rumburg. Clara Magrova, qui nous a tenu de guide, explique.
La chapelle Notre-Dame de Lorette n'est pas apparue par hasard à Rumburg. Elle a été construite dans les années 1704 et 1707 sur la demande du prince Anthony Florian de Liechtenstein qui avait son siège au château de Rumburg. Ambassadeur au Vatican, le prince a beaucoup voyagé au travers de la péninsule apennine et s'est rendu aussi à Loreto. Le culte de la maison de la Vierge, Santa Casa, lui a plu et il a décidé de le transposer au centre de son domaine à Rumburg.
En République tchèque, il n'existe que trois chapelles de ce genre, une à Prague Hradčany, une à Kosmonosy et une à Rumburg. Parmi elles, cette dernière est la plus septentrionale en Bohême, mais également de l'Europe entière. Notre guide nous rappelle pour mémoire ce que c'est la Lorette, nom abrégé donné aux chapelles de Notre-Dame et qui tire son origine soit du mot latin Loreto, laurier, mais plus probablement du nom du sanctuaire italien de la ville de Loreto. La légende de Santa Casa est représentée sur la décoration extérieure de la chapelle. On y reconnaît la maison où est née la Vierge Marie, où elle a vécu et reçu l'annonciation de la naissance miraculeuse de Jésus, raconte Clara Magrova.
Selon la légende, la maison de Marie se trouvait à Nazareth et quand la ville a été sur le point d'être conquise par le musulman, un cortège d'anges a soulevé la maison au cours d'une nuit du mois de décembre 1294. La maison de la Vierge à Nazareth consistait à un ensemble de trois murs adossés à une grotte creusée dans un rocher. Elle a été transférée d'abord sur les côtes de Dalmatie pour être réassemblée finalement à Loreto, près d'Ancône.
Décidé de faire de Rumburg un centre représentatif de son domaine, le prince Antonin Florian de Liechtenstein a fait appel à l'architecte viennois Jan Lukas Hildebrand. Pour la construction de la chapelle de Notre-Dame de Lorette, ce dernier a choisi un emplacement au milieu du complexe du cloître des Capucins de Rumburg.
Hildebrand est allé à Loreto en Italie pour y étudier et mesurer la chapelle d'origine. Pourquoi tant de soucis avec les dimensions de la chapelle? C'est parce qu'à l'époque baroque, on croyait qu'un lieu de pèlerinage pouvait accomplir ses fonctions à un autre endroit. Il était possible d'effectuer les pèlerinages sur les lieux où étaient reproduits les objets ou les statues d'origine. Ceci explique la précision du mesurage des différents éléments et des dimensions de la chapelle italienne afin que sa copie puisse ensuite être réalisée à Rumburg, selon les plans de Hildebrand.
La décoration en stuc est hautement appréciée ainsi que les plastiques et est très proche de l'original italien, sauf que le grès dont les décorations et les plastiques sont faites résiste mal au climat local qui est beaucoup plus rude au nord de la Bohême qu'en Italie. Comme le raconte Clara Magrova, on se bat depuis 300 ans pour la sauvegarde de la chapelle. En 1900, on a fermé la galerie couverte avec un chemin de croix créé en 1749. À l'heure actuelle, on est en train de restaurer les fresques dans le cloître. Nous entrons dans la chapelle. L'intérieur porte quant à lui les traces d'interventions peu sensibles effectuées dans les années 1950. Le plus précieux, la statue de la Madone Noire à l'enfant créée en 1694 à Rome. Une statue miraculeuse qui aurait guéri près de 30 personnes, selon notre guide. Les pèlerinages ont lieu à Rumburg sans interruption depuis 1694. Autre objet unique à l'intérieur de la chapelle, le Saint-Escalier, l'un des 10 qui ont été conservés dans notre pays.
Les 28 marches de cet escalier représentent celui du palais de Jérusalem, gravi par Jésus lors de son jugement par Ponce Pilate qui a décidé de sa crucifixion. Sur le chemin, il a été ridiculisé par des commerçants. leur visage exprimant le mépris et la colère, on était saisi par le sculpteur Elias Dolop, auteur de statues installées en 1770 le long de cet escalier.
Lorsqu'on dit Rumburk, la première chose qui vient à l'esprit des Tchèques est la révolte de Rumburk, organisée par des soldats tchèques de l'armée austro-hongroise revenus du front russe. Elle a éclaté le 20 mai 1918 dans la caserne locale.
On leur a promis de l'argent, des journées de repos, mais au lieu de cela, ils ont reçu l'ordre de se présenter sur le front. En signe de protestation, les soldats révoltés se sont attaqués à leurs supérieurs en décidant de s'armer et de se diriger vers Prague pour y attendre la fin de la guerre. Arrêtés à Nový Bor, ils ont été jugés et condamnés à des peines de prison dans la petite forteresse de Terezín. 3 soldats ont été exécutés à Rumburk, 7 autres chefs militaires à Nový Bor.
À Rumburk, on trouve un petit quartier de maisons à colombages de tisserands, ainsi que des villas d'industriels et d'entrepreneurs. Une manufacture de textiles y a été édifiée dès 1720, et dans les années suivantes, des commerçants anglais qui y venaient s'y installer ont apporté une contribution marquante au développement de la ville. Comme l'ajoute Clara Magrova, Franz Kafka a plusieurs fois séjourné à Rumburk. En tant qu'employé d'une société d'assurance, il était chargé de contrôler les conditions de travail des ouvriers dans des usines.
Tout d'abord, c'est son travail qui l'amène à Rumburk, mais il passe également un séjour au sanatorium Frankenstein. Il a eu l'idée de le remanier en un établissement de cure pour les soldats. Pour ce projet, il devait être décoré d'une distinction autrichienne, mais la fin de la guerre a empêché sa réalisation. Une exposition intitulée « Les voyages de Franzka » sera inaugurée avant la fin de l'année à Rumburk. C'est un projet itinérant accompagné d'une brochure qui repère les lieux visités par Franz Kafka et qui présentera cette personnalité sous un autre angle.
Trois expositions permanentes sont proposées dans les locaux du lieu de pèlerinage marial de Rumburk. Ces locaux servent aussi à l'organisation de concerts, d'expositions et de manifestations culturelles. Ainsi, au mois de septembre, ce seront les festivités de la Lorette. En 2012, on prend s'ouvrir une exposition tchéco-allemande consacrée à l'art ecclésiastique de la région.
C'était une petite virée du côté de la ville de Rumburk grâce à Jarka Gisubelova. C'est déjà bientôt la fin du programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve évidemment demain, même heure, même fréquence, ou sur Internet, vous connaissez l'adresse de notre site www.radio.cz, www.radio.cz/fr.